Il est 22h et vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Moi, j'ai fait la grève aujourd'hui. Donc, l'établissement n'a pas les sujets, en tout cas, dans ma discipline. On n'a pas d'autres moyens pour se faire entendre.
Le bac, nouvelle version, avec son contrôle continu, menacé. Les enseignants n'apprécient pas du tout la nouvelle formule de l'examen. Un homme condamné pour avoir tué sa femme, libéré avant son procès en appel en raison du dépassement du délai légal en cause des juridictions surchargées. Jour de mobilisation contre la réforme des retraites. En demi-teinte, on a senti un certain essoufflement aujourd'hui dans les cortèges.
On est toujours déterminés et malgré ça, il n'y a pas tant de monde que ça dans la rue, donc un peu déçu de ce côté-là. Donc c'est vraiment, moi je pense aujourd'hui, le baroud d'honneur.
Le coût de cette grève contre la réforme des retraites devrait finalement approcher le milliard d'euros pour la SNCF. Son PDG compte annoncer un plan d'économie. Marine Le Pen voit loin, elle anticipe déjà la prochaine présidentielle et se positionne comme candidate.
Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. J'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
Et puis Guillaume Musso, toujours superstar des ventes de livres. Et ça fait 9 ans que ça dure. Du côté du temps, la journée sera pluvieuse demain. Une perturbation va traverser la France avec des pluies assez soutenues. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir le directeur général de Peugeot, Jean-Philippe Imparato. PSA qui a vendu l'an dernier 10% de voitures en moins. On tentera de comprendre pourquoi.
Europe 1.
Et c'est une affaire qui illustre les problèmes dont souffre la justice en ce moment et dont on parle souvent d'ailleurs sur Europe 1. Manque de moyens, manque de personnel et des délais qui s'allongent, parfois au-delà du raisonnable et souvent au détriment des justiciables. En l'occurrence, pas dans le cas présent, puisque l'affaire dont on vous parle ce soir, c'est celle d'un homme, pourtant reconnu coupable du meurtre de son ex-compagne, mais qui vient d'être libéré. Salomé Legrand, le tribunal n'avait pas d'autre choix, il a appliqué la loi.
Absolument, à cause des délais trop longs de la justice. Depuis une réforme votée l'an dernier, le temps entre un procès aux assises et le procès en appel est d'un an maximum, 2 ans à titre exceptionnel, mais jamais plus. C'est un principe fondamental de la démocratie dont bénéficie aujourd'hui Ramón Cortés. Cet homme est accusé d'avoir enlevé sa femme en 2013, la mère de leurs 3 enfants, et de l'avoir exécuté d'une balle dans la tête avant de l'enterrer dans une tombe creusée la veille, le tout avec l'aide de sa maîtresse. Il a été condamné pour cela à 30 ans de réclusion criminelle en première instance, condamnation prononcée le 24 octobre 2017 et dont il attendait toujours le procès en appel. Ce dernier est prévu en avril prochain, mais les délais sont les délais. L'avocat général lui-même a dû s'y résoudre hier. À l'audience, il a déploré que les juridictions surchargées n'aient plus les moyens de fonctionner. Je cite toujours « c'est triste ». Mais c'est le cas. La loi est dure, mais elle doit passer. Ramón Cortés a donc été remis en liberté.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 et puis autre illustration du malaise de la justice. Avec cette situation ubuesque, aujourd'hui au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, où pas moins de 25 avocats ont assuré au pied levé la défense de Jason Lopez. C'est un homme qui était poursuivi pour l'enlèvement de son fils. Son avocat attitré était en grève et donc absent. Mais la présidente du tribunal a décidé quand même de maintenir le procès malgré cette grève. Et du coup, pour dénoncer cette décision, 25 avocats se sont présentés ensemble à l'audience. Le réalisateur Christophe Ruggia, accusé d'attouchement par Adèle Haenel alors que celle-ci était mineure, a été mis en examen après 2 jours de garde à vue et une confrontation avec l'actrice. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors que ce chiffre vient d'être publié aujourd'hui, celui des violences sexuelles, en forte hausse l'an dernier, plus 12%, sachant qu'il avait déjà considérablement augmenté en 2018. À quelques jours des épreuves anticipées du bac, la pression monte pour les élèves de première. Ces épreuves qui doivent débuter lundi sont en effet menacées à cause des réticences de plusieurs syndicats et de professeurs face au nouveau bac. Ces nouvelles épreuves de contrôle continu compteront, on le rappelle, pour un tiers de la note finale, mais le contexte social risque bien de s'y inviter. Virginie Salmen, les menaces des syndicats d'enseignants se précisent.
Oui, aujourd'hui, certains professeurs n'ont pas rendu leur sujet pour ce nouvel examen. En théorie, ils doivent piocher dans une banque de sujets et en sélectionner 3. Eh bien, un certain nombre d'entre eux a refusé de le faire, comme Lydia, prof d'histoire géo du mouvement des stylos rouges à Clermont-Ferrand.
Alors, mon chef d'établissement m'a demandé mes 3 sujets pour les E3C. Je ne les ai pas donnés puisque moi, j'ai fait la grève aujourd'hui. Donc, l'établissement n'a pas les sujets, en tout cas, dans ma discipline.
Donc, les élèves n'ont pas de sujets en histoire géo pour tout le lycée,
non.
C'est ça ?
Oui, Tout à fait. Alors peut-être que d'ici la semaine prochaine, il va trouver un autre professeur pour rechercher les sujets. Mais ça va être compliqué parce que je suis la seule finalement à savoir où on s'est arrêté dans le programme. On n'a pas d'autres moyens, si vous voulez, aujourd'hui pour se faire entendre.
Il y a aussi très localement, à Toulon par exemple, des profs qui menacent de mettre 20 sur 20 aux copies qu'ils corrigeront. Les syndicats sont en train de passer des coups de fil pour les en dissuader puisque ce serait une faute professionnelle. En revanche, il se pourrait que certains profs soient absents le jour de l'épreuve, donc pas de surveillance, pas d'examen, sauf si des renforts sont prévus, bien sûr. Certains grévistes pourraient aussi faire traîner la correction des copies. Ils peuvent difficilement faire la grève de la correction, puisque la période s'échelonne sur 20 jours, et 20 jours de grève, c'est impensable.
Mais alors, est-ce qu'on peut, Virginie, mesurer l'ampleur de la mobilisation à l'heure qu'il est ?
Alors, on vient d'avoir quelques chiffres de sources syndicales. C'est l'Académie de Lyon qui semble l'une des plus touchées, suivie par Aix-Marseille. Et puis, dans 40% des lycées en Bretagne, des professeurs ont demandé le report des épreuves. Même dans le prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, il y a environ 15% de profs grévistes. Une vingtaine de professeurs aussi à Henri IV. La quasi-totalité des syndicats et les parents d'élèves FCPE demandent à Jean-Michel Blanquer de reporter les épreuves en raison de l'impréparation.
Les précisions de Virginie Salmène du service Société d'Europe 1. Les enseignants qui étaient moins nombreux à être en grève aujourd'hui contre la réforme des retraites. Très net recul chez les fonctionnaires. 7 fois moins de grévistes que le 5 décembre. Et des cortèges un peu moins fournis. 187 000 manifestants dans toute la France d'après le ministère de l'Intérieur. Contre 800 000 le 5 décembre. 400 000 jeudi dernier. 28 000 dans la capitale d'après le cabinet indépendant Occurrence. Et malgré tout, après 6 semaines de conflit, les syndicats tentent de maintenir la pression. Même si sur le terrain, le moral des troupes semblait un peu en baisse. Écoutez ce conducteur de RER.
C'est toujours la base qui porte ce mouvement et on est toujours déterminé. Après, c'est sûr que le mouvement va finir par s'essouffler au bout d'un moment parce qu'il y a la question financière qui va se poser. Et donc on ne pourra pas continuer. On espère vraiment que le privé va apporter un deuxième souffle. Et aussi ceux qui n'ont pas fait grève chez nous, qui vont apporter un deuxième souffle. Ça va vraiment dépendre de ça.
D'après vous, c'est dans les jours qui viennent que tout va se décider dans un sens ou dans un autre ?
Moi, je dirais que même aujourd'hui, c'est notre dernier baroud de demeure. Après, ça va vraiment dépendre d'aujourd'hui, de ce qui va sortir de cette journée. Après, il y a encore samedi avec les gilets jaunes, mais on voit que malgré tout, le samedi, c'est la journée où le privé pourrait venir avec nous. Et malgré ça, il n'y a pas tant de monde que ça dans la rue, donc un peu déçu de ce côté-là. Donc c'est vraiment, moi, je pense aujourd'hui, le baroud d'honneur.
Un conducteur de RER dans la manifestation parisienne cet après-midi au micro européen d'Olivier Samin. À la SNCF, ils étaient 10% de grévistes ce jeudi. Demain, le trafic sera pour la première fois quasi normal sur les lignes TGV. 80% des TER sont maintenus et les trois quarts des Transiliens. La SNCF qui compte ses pertes au point que son patron, Jean-Pierre Ferrandou, envisage un plan d'économie, Emmanuel Dutheil.
Oui Isabelle, hein. La SNCF devrait perdre près d'1 milliard d'euros à cause de la grève, c'est bien évidemment gigantesque, le patron de la SNCF le reconnaît, ça va faire mal, ça va nous abîmer, la compagnie pourrait du coup voir ses comptes sombrer l'an dernier et peut-être cette année dans le rouge. Du coup la compagnie envisage en effet un plan d'économie, ce plan va être présenté fin février, le nouveau patron promet qu'il n'y aura pas de suppression de postes sur le terrain, en revanche il y aura assurément des mesures d'urgence pour redresser ce qui peut l'être, a-t-il dit cette après-midi. Mais on peut s'attendre aussi à des cessions d'actifs, là plutôt pour financer des développements. Peut-être pas une filiale en tant que telle, mais ça peut être des cessions de biens immobiliers. La SNCF a un très gros parc. Jean-Pierre Farandou est en train d'étudier cette question. Il se donne 3 à 4 mois, selon son entourage, pour avancer là-dessus. Bonne nouvelle en revanche pour les clients. La SNCF compte amplifier la reprise du trafic avec des petits prix. Elle vient déjà de lancer une campagne pour 400 000 places de train à prix bradé.
Et Emmanuel Dutheil qui reviendra nous parler cette fois des déboires de Peugeot dans son interview Écho d'ici maintenant un peu plus de 10 minutes.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et le porte-avions français Charles de Gaulle sera très prochainement déployé en Méditerranée orientale en soutien de la coalition internationale anti-État islamique. C'est ce qu'a annoncé ce soir Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. Notez d'ailleurs que la ministre des armées, Florence Parly, sera demain à 8h15 l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Le Luxembourg va devenir le premier pays de l'Union européenne à bannir le glyphosate, un herbicide qui sera donc interdit à la fin de cette année 2020. D'ici au 31 décembre, tous les produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate seront donc bannis des sols du Grand-Duché. Marine Le Pen annonce très en avance sa candidature à la présidentielle de 2022. La présidente du Rassemblement national se présentera donc pour la 3e fois consécutive.
Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Mon projet est d'aller vers un projet d'unité nationale autour d'un grand dessein français, d'un grand projet fédérateur qui puisse réunir les Français d'où qu'ils viennent, d'un projet de grande alternance pour remettre le pays sur pied. C'est donc très tôt, sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement qui aura lieu en 2021, que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
Marine Le Pen au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois, candidature qui devra être validée bien sûr par le congrès du parti l'an prochain. Et la première prise de parole ce soir de Ségolène Royal après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier, enquête la visant ainsi que sa mission d'ambassadrice des pôles. Elle assure avoir déjà quitté son poste et vouloir garder sa liberté de parole. Après des semaines de réflexion, le candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, a annoncé aujourd'hui son retrait de la course et son ralliement à son concurrent de La République En Marche, Benjamin Griveaux. Il n'y aura donc finalement que deux macronistes au lieu de trois en compétition. Face à la socialiste Anne Hidalgo, le candidat officiel du parti présidentiel, Benjamin Griveaux, et le dissident Cédric Villani. Les sénateurs américains ont prêté serment tout à l'heure devant le président de la Cour suprême des États-Unis. Premier acte du procès en destitution de Donald Trump. Les élus de la chambre haute du Congrès ont juré collectivement de rendre la justice de manière impartiale devant donc ce haut magistrat chargé de présider ce procès historique. Donald Trump qui prédit ce soir que ce procès sera très vite bouclé. Dans l'actualité aussi, ce chiffre d'une ampleur sans précédent. 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans les pays d'Afrique australe en raison de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques dans leur pays. Les Nations Unies sont particulièrement alarmistes. Cette crise de la faim atteint des proportions jamais vues et nos observations, disent-ils, sur le terrain montrent qu'elle va encore empirer. En Australie, en revanche, c'est le soulagement. La pluie tombe enfin sur le sud-est du pays où sont localisés les plus gros incendies. Cette pluie, bien sûr, n'éteindra pas tout, disent les autorités, mais elles vont aider ces pluies à les contenir. Et puis plus léger, on avait envie de savoir quels auteurs ont été le plus vendus l'an dernier. Quels livres avez-vous lus ? Eh bien, le classement vient d'être établi par l'Institut GFK. Nicolas Carreau, pas vraiment de suspense. Le numéro 1, c'est toujours le même. Pour la 9e fois, c'est Guillaume Musso qui arrive en tête.
Loin, loin devant, oui, il a vendu un peu plus d'1 400 000 exemplaires en 2019. Alors, un petit point sur la méthode quand même, l'Institut GFK comptabilise les ventes tout format confondu, c'est-à-dire grand format, édition de poche et éventuellement coffret de Noël. Voilà pourquoi Guillaume Musso cumule avec son dernier livre La vie secrète des écrivains, plus l'édition de poche de La jeune fille et la nuit. Ensuite, c'est Michel Bussy avec 950 000 exemplaires vendus en 2019, puis Virginie Grimaldi 755 000, et ensuite seulement Marc Lévy 744 000. Puis Aurélie Valogne, Raphaël Giordano, vous savez, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Agnès Martin-Lugan, Franck Tillier est 8e pour ses polars. Il en a vendu 585 000 en 2019. Je lui ai demandé ce que vendre beaucoup de livres changeait pour lui.
Moi, j'essaye de faire que ça ne change rien. C'est-à-dire que je continue à mener ma vie comme tout le monde. Ce que ça change vraiment, c'est un confort dans l'écriture. Quand on vend beaucoup de livres, on peut consacrer tout son temps et toutes ses journées à l'écriture. Donc, c'est un vrai luxe de se lever chaque matin et d'avoir la journée complète pour réfléchir à de nouvelles histoires.
Alors, juste après Franck Tillier, à la 9e place, Houellebecq avec Sérotonine, et enfin Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs au livre de poche. Alors on ne compte pas Sylvain Tesson parce que ce n'est pas de la fiction, mais il se serait classé devant Marc Lévy avec 750 000 exemplaires vendus.
Et vous savez tout grâce à Nicolas Carreau, spécialiste littérature d'Europe 1. En foot, le premier 16e de finale de la Coupe de France se joue en ce moment entre Pau et Bordeaux, et pour l'instant ce sont les Palois qui dominent les Girondins 2-1 pour l'instant à la 62e minute de jeu pour Pau face à Bordeaux. Et puis Martin Fourcade au top de sa forme, le Français a remporté le sprint de Ruppolding, c'est en Allemagne. Il conforte sa position de leader au classement de la Coupe du Monde de biathlon. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Après une journée plutôt ensoleillée aujourd'hui, changement de programme pour demain, place à la pluie.
Oui, effectivement Isabelle, et cette humidité, elle concerne le nord jusqu'au sud-ouest, hein, toute la moitié ouest de la France quasiment, avec des pluies assez soutenues qui se décalent au fil des heures vers l'est dans l'après-midi, des Ardennes à l'Alsace jusqu'au bassin méditerranéen. C'est toute la façade est qui sera sous la pluie demain après-midi. Sur le massif central, les Alpes, les Pyrénées et le Lyonnais, des flocons sont même prévus demain après-midi à partir de 1000 mètres d'altitude. La limite pluie-neige s'abaissera à 800 mètres sur le massif central dans la nuit de vendredi à samedi. À l'arrière de cette perturbation, des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, sur toute la moitié ouest du pays, et bien là, le ciel est un petit peu plus calme avec une alternance d'averses et d'éclaircies. Sur les côtes de la Manche, soyez prudents. Sur le sud de la Garonne et sur la côte d'Azur, hein, sur le golfe du Lion, quelques orages pourront même se déclencher dans l'après-midi. Sur cette moitié ouest, c'est le vent qui souffle aussi demain jusqu'à 70 km/h dans les terres. La tramontane dans le sud est un petit peu plus soutenue avec 90 km/h en rafale. Les températures, elles sont en légère baisse pour demain. 0 à 5 degrés le matin à l'est sous la pluie, forcément. 5 à 10 degrés sur le reste de la France. Dans l'après-midi, nous aurons 9 degrés à Brest, 11 à La Rochelle, Nancy et Lille, 12 pour Paris et 15 degrés à Marseille.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Peugeot, Jean-Philippe Imparato. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16 et comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la séance qui s'est terminée ce soir sur de nouveaux records à Wall Street.
Oui, les marchés poursuivent sur leur lancée au lendemain de l'accord commercial avec la Chine. Le Dow Jones gagne 0,92% à 29 298 points. C'est un nouveau record historique. Record aussi pour le Nasdaq qui termine à 9 357 points grâce à un gain de plus de 1%. À plusieurs indicateurs économiques solides ont dopé les marchés, mais aussi des résultats d'entreprises rassurants. C'est le cas de Morgan Stanley. Le titre flambe de près de 7%. Très bon résultat pour la banque d'investissement qui a aussi revu en hausse plusieurs de ses objectifs de rentabilité. Les valeurs technologiques aussi sont en forme. Amazon gagne 0,9%, Apple plus 1,2%, Microsoft plus 1,8%. Les cours du pétrole sont repartis en hausse. Ils saluent l'accord commercial qui pourrait booster l'économie mondiale et donc la demande de pétrole. Le WTI reprend 1,6% à 58,75 $ le baril à New York. Et puis l'euro recule de 0,14% et s'échange contre 1,1132 $.
Et pendant ce temps-là, le CAC 40, lui, continue à faire du surplace.
Oui, un CAC 40 à tonnes. C'est déjà le cas depuis presque 10 séances. Il gagne ce soir un petit 0,11% à 6039 points. Kering gagne 1,8% et évolue sur des niveaux jamais atteints en bourse. Dans une note sur le secteur du luxe, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 520 à 580 €. Et puis ST Microelectronics s'adjuge 0,7% grâce à une note positive des analystes de Barclays.
Une séance dans le rouge pour le secteur automobile, Claire.
Oui, du rouge malgré un mois de décembre historique pour le marché européen. Les immatriculations de voitures neuves ont bondi de plus de 20%. C'est contrasté pour les deux grands groupes français. Renault a vu ses ventes bondir de 22,9%, alors que celles de PSA Group ont reculé de 2,7%.
Et on y revient justement dans un tout petit instant avec l'invité d'Emmanuel Duteil, le directeur général de Peugeot.
Et puis les conséquences de la grève en France. Fnac Darty estime avoir perdu 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en décembre. Annonce du distributeur de produits culturels ce soir après la clôture des marchés. On suivra donc l'évolution du titre demain. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Francfort est stable et Londres perd 0,4%. Madrid plus 0,6%, Milan plus 0,7%, Amsterdam plus 0,1%. Le CAC 40 aussi gagne 0,1% et termine à 6039 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général de Peugeot.
Bonsoir Jean-Philippe Imparato.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est chez vous, ici, au siège de la marque Peugeot à Rueil-Malmaison. Pourquoi ? Parce que vous avez présenté vos résultats commerciaux pour l'année 2019 ce matin. Quand on regarde les chiffres, une baisse de 10%. Quand on regarde notamment la raison, c'est la Chine. Vos ventes ont baissé de plus de 50% l'année dernière sur place. Vous dites, on est mauvais en Chine, on n'y arrive pas. Ça fait des années que Peugeot dit ça. Pourquoi vous n'y arrivez pas ?
Si vous regardez bien, il y a deux régions sur lesquelles qui impactent les résultats. La première, c'est le solde de notre retrait d'Iran. Rappel, ça faisait 450 000 voitures. Ça, c'est clé quand même dans la lecture des résultats. Et deuxièmement, on a perdu 75 000 voitures en Chine. Les temps sont longs pour recadrer une affaire qui est partie pas droit pendant quelques temps. Le principal problème que l'on a en Chine n'est pas un problème de produit, n'est pas un problème de gamme, parce que quand j'interroge les clients chinois, ils nous disent, attends, le style, c'est super. En revanche, on a un réseau extrêmement fragile, qui n'a pas été capable d'absorber les variations colossales du marché chinois, qui est très drivé par les discounts, les remises, les promos à des niveaux qui sont colossaux et dans lesquels on ne va pas, et qui n'a pas su construire sa profitabilité sur les autres activités. Donc, il prend de plein fouet les reculs du marché chinois, et nous on l'a fait plus que les autres parce qu'on a été probablement moins bon que les autres sur ce marché, et donc il faut le reconnaître, on ne va pas passer son temps à s'expliquer.
Oui, mais ça fait des années que Peugeot dit on est mauvais, on n'y arrive pas. C'était pourtant il y a quelques années le plus gros marché au monde devant la France de PSA. Qu'est-ce qu'on fait à un moment?
C'est vrai. Donc, on reconstruit notre réseau from scratch du début en ce moment. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, il faut qu'on retrouve à la fois des concessionnaires dans des zones dans lesquelles ils sont capables de se développer, on gagne de l'argent. Sinon, on passera pas ce gap. Et dans la poursuite des lancements de nouveaux produits. Par exemple, je suis allé à Canton pour, en avant-première, lancer la nouvelle 2008 que vous voyez par ailleurs arriver avec un succès phénoménal en Europe d'ailleurs, pour les aider à reprendre la bonne direction dans leurs activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, je rentre dans 2020 avec la gamme la plus récente, je dirais, que nous n'ayons jamais eue dans ce pays. C'est-à-dire elle n'est pas différente substantiellement de celle que vous pouvez voir ailleurs. Donc je fais l'hypothèse qu'en 2020, ils vont s'en sortir, ou en tout cas qu'ils vont avoir les moyens de combattre. C'est ça que je veux.
Alors on revient cette fois en France, chez nous, vous parlez de la 2008 qui démarre très fort, la 208 a également été lancée en fin d'année. Est-ce que vous êtes confiant sur un marché français qui va être très compliqué, puisqu'il y a eu de très bonnes ventes à la fin de l'année, puisque tous les constructeurs ont passé les ventes avant que les nouveaux malus arrivent? On sait que ça va être très très dur sur le premier trimestre.
Alors, on rentre dans 2020, pas que sur la France d'ailleurs, sur l'Europe en général, avec un portefeuille de commandes en ordre de grandeur de 20 à 30% au-dessus de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on y rentre super bien. Alors, on est très aidé par le fait que 208, nouvelle 208 et la nouvelle 2008 ont des résultats assez extraordinaires depuis qu'on les a mis sur piste, je dirais, en novembre et décembre. Donc, un gros niveau de commandes de voitures avec des finitions très hautes. C'est-à-dire que les clients veulent des GT Line et des GT qui sont chez nous les niveaux les plus hauts.
Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est des voitures sur lesquelles on fait le plus de marge.
Et parce que c'est des voitures juste magnifiques. Donc l'effet route, je dirais, hein, l'impact que vous avez avec une voiture comme ça de cette finition est extrêmement intéressant pour l'image de marque qui par ailleurs progresse. Deux. Le pourcentage de versions électriques de ces mêmes modèles est très surprenant. C'est-à-dire qu'on est très au-dessus des chiffres qu'on imaginait être nécessaires pour être conformes à l'évolution de la réglementation qui, comme vous le savez, change tout à partir du 1er janvier. Donc ces deux effets-là, plus le succès qui ne se dément pas de 3008, 5008, et une 508 qui, par exemple, sur un marché comme la France, fait 25% de son segment. C'est-à-dire que la deuxième, c'est une concurrente allemande qui fait 13, quoi. Ça augure bien d'un 2020 qui, quelles que soient les variations de marché, pour Peugeot, se passe bien.
Donc vous êtes plutôt confiant malgré tout pour cette année. Là, vous parlez des versions électriques qui fonctionnent bien sur vos nouveaux modèles. De façon très concrète, PSA, mais ça a été pareil chez Renault, vous avez raté la bataille de l'hybride. Vous y arrivez enfin. Ça va être aussi porteur?
Je pense que l'hybride sera la réponse à la demande des clients des segments de type 3008, 5008, 508. Et je pense que l'électrique est la réponse sur les segments urbains et périurbains. Quand vous essayez une électrique, vous asseyez, vous faites 50, 100, 150, 200 km par jour, vous repartez avec une électrique parce que la prestation est juste extraordinaire. Et on rentre dans janvier d'une manière sereine. 100% des lancements seront électriques, ils le sont déjà, et il se trouve qu'on le fait avec la même gamme, parce qu'on a la chance d'avoir une plateforme multi-énergie qui nous permet de dire à nos clients, vous achetez votre 208, vous achetez votre 2008, et vous choisissez le moteur qui va avec. C'est très confortable, à la fois pour les clients, mais c'est très confortable pour les vendeurs.
Une récente étude dit que pour moins polluer, les derniers véhicules diesel sont équipés de filtres qui empêchent les particules d'être expulsées par les pots d'échappement. Le problème, c'est qu'au fil des kilomètres, ces filtres s'encrassent. Il faut donc les nettoyer. À ce moment-là, les diesels pollueraient énormément. Qu'est-ce que vous répondez?
Je réponds que le niveau de nos émissions en diesel, mesuré par les organismes à la fois officiels et indépendants, nous situe le diesel du groupe et donc de la marque Peugeot à des niveaux que je qualifierais de benchmark au niveau Europe. Je me base là-dessus. Après, on peut chacun avoir un avis sur la question.
Mais on parle de dégazage pour ces véhicules diesel, vrai ou faux, de façon là très concrète et très simple.
J'ai pas d'éléments me permettant de vous répondre là-dessus. Je suis juste mesuré au fil des kilomètres par nos équipes et par les organismes extérieurs et j'ai pas constaté ce phénomène que vous décrivez. Si je devais constater tel ou tel phénomène, évidemment, on le corrigerait.
Enfin, toute dernière question, vous aviez annoncé le retour de Peugeot, logiquement, là, à la fin de l'année ou peut-être début de l'année prochaine, aux États-Unis. Vous allez vous marier avec Fiat Chrysler. Chrysler est bien évidemment très présent aux États-Unis. Ça sert à quoi de faire revenir Peugeot aux États-Unis? Est-ce que c'est toujours d'actualité finalement?
J'avais dit, et je continue à dire, que pour moi, il n'y avait évidemment pas de petits pays et pas de petits clients, et que les États-Unis restent et restaient une destination pour le groupe. J'avais dit aussi qu'on étudiait le business model en 2019-2020, que je reviendrai vers vous fin 2020 pour vous dire comment, avec quelle ampleur et avec quoi, à la limite, en termes de propositions de voitures. Je reviendrai comme convenu fin 2020, en ayant absorbé évidemment les nouvelles informations qui sont maintenant à notre disposition avec l'évolution prévisible du groupe.
Mais est-ce que malgré tout, le mariage avec Fiat change la donne et rend moins impératif le retour de Peugeot aux États-Unis, parce que déjà il va falloir déjà vendre des Chrysler avant toute chose aux US?
À ce stade-là, j'ai absolument rien changé à la stratégie de Peugeot. Ça peut bouger, mais pour l'instant, je reste absolument sur ce que je vous ai dit l'année dernière.
Eh bien, un grand merci Jean-Philippe Imperato, le patron de la marque Peugeot, était notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous Emmanuel Dutheil. Et effectivement, on vous retrouve demain. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Retraite, grève, cherche relève, titre Libération. Si la mobilisation fléchit dans les transports et que les manifestations sont moins massives, le mouvement se transforme, écrit le journal, multipliant les actions ponctuelles et s'élargissant à de nouveaux secteurs. Épargne, le casse-tête des rendements négatifs. C'est à la une des Échos. La plupart des produits d'épargne, vous le savez, sont touchés par la baisse des taux et affichent donc des rémunérations négatives. La décision du gouvernement de baisser de 0,75 à 0,5% le taux du livret A au 1er février ouvre une nouvelle ère pour des épargnants déjà affectés par la baisse de rendement de l'assurance vie. Djihadistes libérés, la nouvelle menace, c'est à la une du journal L'Opinion. Dès cette année, des terroristes emprisonnés vont sortir. Plus d'une centaine de levées d'écrou sera prononcée d'ici à 2022. Une gageure pour les services de renseignement qui prendront le relais. Djihadistes, où en est la justice? S'interroge pour sa part le Dauphiné libéré. Certains sont dans des geôles en Syrie ou en Irak, leur pays d'origine ne souhaitant pas leur rapatriement. D'autres sont en France, ont purgé leur peine et sortent de prison sans que l'on connaisse vraiment leur niveau de déradicalisation. Les situations des djihadistes sont multiples, mais elles ont tout un point commun. La justice ne sait que faire d'eux. Boris Johnson prépare la révolution de l'après-Brexit, titre pour sa part Le Figaro. On est à 2 semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et le Premier ministre conservateur est à la manœuvre sur de multiples fronts avec l'ambition de réformer son pays en profondeur. Et puis PMA à l'étranger, des chiffres inédits. C'est le titre du journal La Croix qui a mené une grande enquête sur les Françaises potentiellement concernées par la PMA. Selon cette enquête, au moins 2400 femmes lesbiennes en couple ou célibataires se rendent chaque année en Belgique ou en Espagne pour recourir à une procréation médicalement assistée. Une évaluation qui laisse présager une demande bien supérieure à celle estimée par le gouvernement si la PMA est effectivement étendue à toutes les femmes. Du coup, la demande de gamètes risque d'excéder largement l'offre, nous dit le journal La Croix. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Je vous donne rapidement le score de ce premier 16e de finale de Coupe de France entre Pau et Bordeaux. On en est à 78 minutes de jeu et pour l'instant, ce sont toujours les Palois qui mènent 2-1. Je vous souhaite sur ce une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.